Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons tout simplement ouvrir un passage de notre Bible. Je vous propose que nous fassions une lecture dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît. Alors, évangile de Luc, chapitre 24, et nous allons lire ce texte, qui est une belle histoire. Elle nous est rapportée uniquement par l'évangéliste Luc. On pourrait peut-être lui donner tout simplement un titre, c'est « Du doute à la foi ». C'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Alors voilà ce que nous découvrons, que nous redécouvrons. Nous lisons ensemble au verset 13. « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. » Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi leur dit-il ? » Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concerne, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alors que Dieu nous bénisse à travers tout simplement ce commentaire de la parole que j'aimerais partager avec vous. Et nous avons dans cette histoire qui commence de cette manière : « Et voici ce même jour. » Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il y ait deux événements qui ont fait tout simplement, ont donné autant d'importance pour qu'ils soient consignés dans notre Bible et que nous puissions en garder le souvenir encore aujourd'hui. Cette expression « voici le même jour » laisse supposer quelque chose qui s'est produit, quelque chose d'extraordinaire, je dis bien d'extraordinaire, et lorsque nous nous replaçons dans le contexte de ce récit, nous nous apercevons que l'extraordinaire n'est ni plus ni moins, et vous en conviendrez, c'est quand même extraordinaire, c'est surnaturel, il s'agit de la résurrection de Jésus. Oui. Alors, on va voir ce que cet événement peut poser de problème aux hommes, oui, peut les interroger, parfois, eh bien, les amener tout simplement à ne rien comprendre, parce que c'est vrai que le fait de la résurrection est quelque chose qui ne doit pas être abordé avec notre intelligence ou notre raison, parce que nous en connaissons la réponse déjà. Un mort, eh bien, est mort, tout simplement. Mais ça s'appréhende avec, tout simplement, la dimension de la foi. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit, s'il y a un titre à donner à notre réflexion, on pourrait certainement lui donner du doute à la foi. Voilà, du doute à la foi. Il y a des gens, quelquefois, qui font l'effet inverse. Cela fait l'effet inverse. Ils passent de la foi au doute, dans certains cas. Mais là, nous allons voir qu'il y a quelque chose de très instructif et qui construit notre foi. Nous apprenons, de par notre récit, que deux hommes se dirigent à Jérusalem. Ce sont deux croyants qui, vraisemblablement, ont suivi Jésus depuis pas mal de temps. Ils vont de Jérusalem, là où Jésus a été crucifié, à un village, environ 15 kilomètres, 11-15 kilomètres, enfin 10 ou 15 kilomètres, qui s'appelle Emmaüs. Et nous voyons que, à l'époque, le seul moyen de locomotion fréquent, c'était la marche. Alors, ils vont, ils rentrent chez eux, à Emmaüs, donc ils s'entretenaient, ils parlent ensemble. Le texte nous rapporte qu'ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qui avait pu bien se passer pour en faire un sujet de conversation? Eh bien, c'était tout ce qui avait eu lieu depuis près de 3 ans, ou un peu plus de 3 années, avec ce prophète que tout le monde appelait le prophète de Nazareth, qui pour certains était reconnu comme le Messie, pour d'autres un véritable imposteur. Mais néanmoins, il faisait parler de lui parce que, eh bien, il faisait des miracles. Il disait des choses qu'on n'avait jamais entendues. Alors, ces deux hommes s'entretenaient tout au long du chemin et ils parlaient de tout ce qui s'était passé, et entre autres, dans les derniers jours. Et dans ces derniers jours, c'était tout simplement l'arrivée de ce prophète de Nazareth dans la ville de Jérusalem, à travers, eh bien là, lorsque les soldats l'ont saisi, l'ont emmené devant le tribunal, a été condamné, ensuite exécuté, et voilà que ce jour même, on apprend qu'il est ressuscité. Ça fait beaucoup de choses. Alors ils essaient, en discutant, de percer, de comprendre, de percer le mystère, de comprendre, d'essayer de comprendre quelque chose à cette histoire. C'est tout simplement, eh bien, l'histoire de la passion de Jésus. Et c'est un véritable sujet de perplexité pour ces marcheurs. Alors, parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des bruits, qui ne seraient plus dans le tombeau, mais qu'il en serait sorti. Alors, on appelle ça une résurrection, n'est-ce pas? Et ce qui les troublait d'autant plus, c'était surtout le fait qu'on ait mis à mort Jésus. Pourquoi une fin semblable pour un homme qui a fait tant de bien dans sa vie? Voilà, ça c'est paradoxal. Et les disciples qui connaissaient bien Jésus, qui avaient entendu ses enseignements, qui l'avaient vu manifester, eh bien là, des choses extraordinaires, comment se fait-il qu'on ait pu le traiter de cette manière? Alors ils sont troublés parce que ils l'ont bien vu qu'il était condamné. Ils l'ont bien vu certainement l'apercevant de loin, comme tous les autres, puisque tout le monde avait fui au moment où Jésus était porté en croix. Et puis là, eh bien, on vient d'entendre, il y a un bruit qui parcourt Jérusalem. Eh bien, il serait ressuscité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons que le verset 15 dans notre récit, que nous avons lu il y a un instant, nous donne de comprendre que ces deux voyageurs sont rejoints par un troisième personnage. Et dans le texte, il nous est dit simplement, mais dans le texte, nous on le sait parce que c'est écrit, mais eux, ils ne savent pas encore. Il nous est dit que Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il y a quelque chose à souligner qui fait partie de cette sociabilité du temps. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire de longs voyages avec des gens, dans le train, en avion, ou d'une manière ou d'une autre. Les gens se parlent très peu. Hein. Mais à l'époque, eh bien, il y avait une communication, une relation qui se faisait, eh bien là, lorsque les gens se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Alors ils discutaient. Et c'est ce qui va se passer, parce que c'est autour justement d'une discussion que les choses vont se faire, que ils vont faire une expérience extraordinaire, un véritable réveil de foi, une délivrance de l'incrédulité et du doute, parce qu'ils parlent. Et nous voyons que, un peu plus loin, il nous est dit que leurs yeux, plus précisément, étaient empêchés de le reconnaître. Alors ça, c'est quand même assez formidable aussi. Ils vont cheminer pendant des kilomètres ensemble, pendant un certain temps, et ils ne se voient pas, alors qu'ils le connaissent bien, Jésus. Ils ne s'aperçoivent pas, ils ne reconnaissent pas que celui qui vient de les rejoindre, eh bien, c'est celui dont ils sont en train de parler. Hein, chemin faisant. Ils sont empêchés, leurs yeux empêchés de le reconnaître. Alors peut-être on pourrait se poser quelques questions. La première chose qui tombe sous le sens, c'est que l'incrédulité ou le doute rend aveugle. En tous les cas, l'incrédulité aveugle. Le doute trouble, ça c'est certain, et c'est le moins qu'on puisse dire en ce qui les concerne. Et ils sont en quelque sorte frappés de cécité, ils ne reconnaissent pas leur compagnon qui fait route avec eux, parce qu'ils ont du mal à accéder, à croire finalement à la résurrection, au fait de la résurrection. Vous savez, il y a quelque chose dans le christianisme qui est unique et qui est le cadre finalement du message de l'évangile, c'est la résurrection de Jésus. Ça a été le thème de la prédication des premiers disciples. Quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit que dans l'histoire, première histoire de l'Église chrétienne, eh bien la prédication reposait particulièrement sur Jésus est ressuscité. Naturellement, tout le reste, mais Jésus ressuscité. Et c'était souvent un grand embarras pour les gens qui entendaient ça, en disant, mais comment se peut-il faire qu'un homme qui est mort, eh bien, ressuscite? Alors, ils ne croyaient pas à la résurrection. Et puis, il y avait certainement un changement dû aux souffrances, à la mort de Jésus qui avait été crucifié dans un... Peut-être pour eux, ils ne l'avaient pas reconnu en raison de cela. C'est une supposition. Et puis, une chose, c'est que Jésus voulait rester probablement inconnu, comme souvent nous le voyons, afin de les instruire et de les persuader par l'Écriture. Parce qu'ils ne voulaient pas tant qu'ils accèdent à la foi qu'ils avaient perdue, être débarrassés de leur incrédulité ou de leur doute par la vue, mais en parlant avec eux et en les emmenant à fonder finalement une nouvelle expérience, une nouvelle foi sur l'Écriture sainte. Et c'est ça justement ce qui est extraordinaire. C'est ça ce qui est extraordinaire, parce que on n'est pas sauvé ou on n'est pas chrétien parce que l'on voit. On est chrétien parce que l'on croit. Et ce que l'on croit, c'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit l'Évangile, c'est ce que nous dit Jésus. Et ça, c'est certainement, en effet, eh bien, un élément très fort dans la démarche de tout homme, et particulièrement de ces deux disciples d'Emmaüs. Un peu plus loin, il nous est dit que Jésus va leur poser la question de cette manière: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? Ce troisième compagnon qu'ils ne reconnaissent pas va tout simplement leur demander le sujet de la conversation, et Jésus va leur poser précisément cette question parce qu'il les trouve, eh bien là, dans une grande tristesse. Et souvent, l'état intérieur correspond finalement avec ce que nous disons, ce dont nous nous entretenons. Et ils étaient là, tous les deux, non pas à s'entretenir des choses positives, mais des choses négatives, bien qu'il y ait quelque chose de très positif dans tout cela. Mais tout dépend de la manière dont nous envisageons les choses et comment nous les appréhendons. Et nous voyons que là, dans le cours de la conversation, et la confiance va s'instaurer entre les trois voyageurs, petit à petit. Toutefois, il y a quelque chose de caractéristique chez ces deux disciples, comme Jésus le fera remarquer, c'est leur désarroi, c'est leur désappointement. On a parlé de tristesse. Tristesse. Je crois qu'ils étaient tristes parce que, premièrement, ils connaissaient Jésus. Deuxièmement, parce qu'ils aimaient Jésus. Ils étaient tristes parce qu'ils étaient déconcertés en pensant que finalement les choses auraient pu se passer autrement. Ils étaient en quelque sorte, en bref, dans une appréhension, dans une incompréhension plutôt, des plans de Dieu et du sens des prophéties. Ils se disaient, parce que c'était des Juifs, mais comment se fait-il, nous qui connaissons l'Écriture, eh bien ça ne se passe pas comme l'Écriture nous le dit. Et pourtant, s'ils avaient bien compris le sens, c'était comme ça que ça devait se passer. Mais ils s'étaient mis toutes sortes de choses en tête. Et les questions de Jésus les invitent à ouvrir leur cœur, un cœur qui est plein de peine et plein d'une certaine aigreur en quelque sorte. Alors c'est un des deux disciples qui va s'entretenir. Il nous est simplement rappelé que l'un d'eux, nommé Cléopas, a répondu à Jésus, « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Alors s'il y avait quelqu'un qui devait savoir ce qui est arrivé, c'est bien Jésus lui-même, ça c'est clair. Et la question d'un de ses disciples, c'est de dire, « Mais on est surpris, tu fais route avec nous, tu nous demandes pourquoi on est triste, tu nous demandes le sujet de notre conversation, mais est-ce que tu es véritablement descendu de notre planète pour ne pas t'apercevoir qu'il y a eu quelque chose de terrible dans cette ville ?» ces derniers jours, et tu ne saurais pas toutes ces choses. Voilà. Parce que c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit. Serais-tu le seul à ne pas le connaître? Mais que s'est-il donc passé? Et l'histoire se poursuit, puisque Jésus, diront ces hommes, Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ce qu'ils vont dire, ils disent la vérité. Alors je ne sais pas depuis combien de temps ils avaient suivi Jésus. Ils étaient là en tant que disciples de Jésus-Christ. Ils avaient probablement assisté à beaucoup de choses, entendu beaucoup de choses, vu beaucoup de choses. Et ils vont rapporter à Jésus qui marche avec eux. Il va dire, mais Jésus est un prophète. Et c'est un prophète qui est puissant. Il s'est manifesté par des œuvres extraordinaires, surnaturelles, miraculeuses. Mais il n'est pas seulement celui qui fait les miracles, mais il est puissant en parole. Il est puissant en parole devant Dieu, mais aussi devant tout le peuple d'Israël. C'est connu, c'est de notoriété publique tout ce qu'il a fait. Et si nous voulions ajouter ce qu'ils auraient pu penser, ce qu'ils auraient pu dire, mais il s'est manifesté par des actes d'amour, parce que l'amour remplissait sa vie, tout simplement. Il s'est manifesté par une grande compassion pour les malheureux, et puis bien d'autres choses. Et malgré tout le bien qu'il a fait, eh bien, ce Jésus a été victime des autorités religieuses, des Juifs, et c'est une véritable injustice que l'on l'ait condamné et qu'on lui ait donné la mort en le crucifiant. Faire tant de bien et être aussi odieusement traité, c'est quelque chose d'inadmissible. Et c'est ce qui faisait la tristesse, tout simplement, de Cléopas et puis de son accompagnateur, de son ami. C'est bien là ce qui pesait sur leur cœur, finalement. Et ils avaient pensé que les choses auraient été autrement. Mais ça s'était passé si mal. Et pourtant, dans le plan de Dieu, c'était comme ça que ça devait se passer. Et dans bien des cas, par rapport à nous-mêmes, lorsque nous envisageons les choses dans notre propre vie, ou peut-être nous attendons quelque chose de la part du Seigneur, nous disons, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis finalement, les choses vont se passer autrement, et nous ne savons plus du tout où nous en sommes rendus. Mais ce n'est pas pour ça que les choses échappent à Dieu. Et quelquefois, il nous fait passer par tel ou tel chemin, mais c'est un chemin nécessaire. C'est un chemin qui va nous apprendre et qui va nous conduire à autre chose. Alors, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, il est mort. Et quand on a fait le tour de tout cela, il pouvait dire, tout est fini, il n'y a plus rien à espérer. Ouais. Ça, c'est la voie naturelle des hommes. On vit, on meurt, et puis après, c'est terminé, on n'en parle plus. Permettez-moi de faire une remarque, c'est qu'il n'y a rien de plus attristant que le christianisme, je dis bien le christianisme, qui s'arrête à la mort de Jésus sans croire à la réalité de la résurrection. Ouais. C'est ce qui fait la différence avec toutes les autres, excusez-moi, entre guillemets, religions, bien que je considère que l'évangile n'est pas une religion. On va le voir d'ici quelques instants. Ce n'est pas une religion. L'évangile, c'est plus que cela. Ce n'est même pas une morale, c'est plus qu'une morale. C'est une puissance, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. C'est tout simplement, eh bien là, le témoignage, eh bien, du plan de Dieu manifesté pour notre salut. Et il y a tant d'hommes autour de nous qui sont comme les disciples d'Emmaüs, qui ont une croyance, certes, qui ont connu certaines choses, qui ont connu Jésus dans peut-être une manière tout à fait particulière, mais à partir du moment où, eh bien, ils s'arrêtent uniquement à la crucifixion, à la croix, parce que les morts, eh bien, il n'y a plus rien à attendre. Ça, c'est véritablement quelque chose que nous comprenons, que nous connaissons dans notre monde. Parce que la résurrection, c'est une vérité expérimentale, une vérité pratique, et ça ne s'arrête pas au dogme. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont été instruits dans une certaine forme de christianisme, où là, eh bien, c'est la croix et rien d'autre. La croix, oui. Mais s'il y a la croix et qu'il n'y a pas la résurrection, eh bien, c'est nul et non avenu. Hein. Il n'y a rien d'autre chose. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à espérer. Donc, il y a nécessairement derrière la croix une vie nouvelle. Il y a une renaissance. Alors, on ne s'arrête pas au dogme. On va beaucoup plus loin. Résurrection pratique qui consiste à croire que Jésus est vivant, croire à l'ensemble de ses paroles et de ses promesses parce qu'elles sont réelles et elles sont opérantes au présent. Et pourquoi sont-elles agissantes au présent? C'est parce qu'il est toujours là. D'ailleurs, il le dira lui-même, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses sont au présent, je suis. » Ce n'est pas « je serai » ou « lorsque je reviendrai, je ferai ceci et cela ». C'est une réalité. Et vous savez, on le décline quelquefois par un petit hymne chrétien. Jésus sauve, Jésus pardonne, il guérit, il libère, il baptise de l'Esprit et il revient. Ça, c'est le plein évangile. Et ce plein évangile, il s'appuie sur une chose, c'est la résurrection, tout simplement. Alors, christianisme de dogme ou christianisme d'expérience? Il y a les deux. Et ces hommes sont étreints avec une grande déception, puisqu'ils vont le confesser, ils diront « mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ». Et ça, je crois que dans le cœur des contemporains de Jésus, devant tout ce qu'ils pouvaient faire, les miracles sur les hommes, les miracles dans la nature, les miracles sur la mort, les miracles dans le monde des esprits, ils se disaient « mais c'est véritablement le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Et quand bien même notre nation d'Israël est occupée par une armée étrangère, en l'occurrence c'était l'Empire, c'était les armées romaines, se disaient « mais lui il ne peut en faire que finalement, il va en faire son affaire et puis nous allons tout à nouveau, eh bien là, recouvrer la liberté parce que ce sera lui notre chef, ce sera lui notre roi ». Eh oui, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est une espérance qui s'évanouit dans le cœur des disciples d'Emmaüs. C'est une conception fausse de la vocation du Messie. Ce n'est pas un héros national, si l'on peut dire, et les Juifs l'attendaient de cette manière. C'est ce qui vaudra certainement à Judas de se mettre la corde au cou, parce que lui, il attendait autre chose. Mais ce n'est pas un héros national, c'est un rédempteur universel. Et ça, ça change tout. Donc, ces hommes sont aux prises avec ce grand débat, ce grand dilemme de la tristesse, plein de déceptions et de troubles, et ils ont autour d'eux toutes sortes d'indices étonnants pour les faire sortir de cette torpeur. Témoignage, entre autres, de quelques femmes qui affirment que Jésus n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Il faut lire un petit peu avant, hein, dans votre texte. Et ces femmes vont se précipiter vers les disciples qui étaient restés à l'écart, et elles vont, en revenant du tombeau, apporter des preuves indéniables qu'il n'est plus là. Alors, Naturellement, les ennemis de la foi du temps vont dire, mais ce sont ses disciples qui l'ont pris, qui ont soudoyé les gardes, qui ont fait ceci et cela, mais ils ont enlevé son corps. Enfin, il y a toute une histoire qui est racontée aussi dans les évangiles, qui est très intéressante d'ailleurs. Il y a même eu l'apparition d'anges annonçant une nouvelle extraordinaire. Et cette nouvelle est contenue en trois mots, Jésus est vivant, tout simplement. Jésus est vivant. Mais est-ce que l'on doit attacher de l'importance? Peut-être que ces hommes se disaient, oui, mais ce sont des histoires de femmes. Et vous savez que Dieu s'est servi des femmes pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, ce n'est pas des hommes. Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est véritablement quelque chose d'important? C'est peut-être la question qu'ils devaient se poser. Toutefois, eh bien là, vérification des faits va se révéler exacte. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Eh oui, parce que quand les femmes sont revenues surprises, étonnées, voire même peut-être apeurées de cette nouvelle, eh bien, certains se sont précipités. Et à ce titre, il y a eu, me semble-t-il, Pierre et Jean qui ont couru tout de suite jusqu'au tombeau pour voir si c'était vrai. Et c'est bien ce qui nous est rapporté. Ils sont allés au sépulcre et ils ont vu, ils ont constaté de leurs yeux vus que ce que les femmes leur avaient dit, c'était vrai. Mais en ajoutant ceci, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ah oui. Voilà. Vous savez, c'est le cheminement de la foi, c'est un peu ça. On avance, il y a plein d'éléments, il y a plein d'indices. Ça semble très énigmatique, cette voie, cette découverte de Dieu. Ce cheminement dans notre vie. Alors il y a toutes sortes de choses qui sont là en se disant « mais c'est pas possible, ce ne sont pas des coïncidences, le hasard n'existe pas ». Et ça trouble tout cela. Et pourtant il nous manque un élément essentiel. Il dira « mais lui, ils ne l'ont pas vu ». Et pourtant, il l'avait juste à côté d'eux. Ouais. Quelquefois, vous savez, il y a pas mal d'amis qui nous disent « eh bien moi, je voudrais bien voir le Seigneur, je voudrais bien qu'il se manifeste ». Je voudrais bien qu'ils fassent ceci et cela. Ils en connaissent suffisamment pour dire ça, alors que le Seigneur est beaucoup plus proche qu'ils ne le pensent. Oui, beaucoup plus proche. Ça nous fait penser à Jacob, vous savez, lorsqu'il était à Péniel, et à un moment donné, il va être saisi d'une certaine... une frayeur, alors qu'il fait noir à ce moment-là, et il va dire, mais je ne savais pas que l'Éternel, que le Seigneur était dans ce lieu. Vous savez que le Seigneur est au milieu de nous ce soir? Vous le touchez? Vous le voyez? Non? Mais parce qu'il en a fait la déclaration. Et les disciples d'Emmaüs l'avaient précisément à leur côté. Ils ne savaient pas que c'était lui. Ils ne l'avaient pas reconnu. Ils ne voyaient pas. Leur cœur, leurs yeux, leur entendement spirituel était complètement inactif. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Oui. Mais bientôt, ils vont le voir. Et à la clé, il va y avoir une expérience. Vous savez, comme on en a parlé il y a quelques semaines, quelques jours, les écailles dans les yeux qui tombent, ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu quand il fait tomber nos écailles. Vous savez, les écailles des yeux, mais pas ces yeux-là, les yeux de notre cœur. Et là, nous nous apercevons qu'il y a une autre réalité avec laquelle nous avons cheminé, que nous connaissons, mais que nous n'avons jamais encore pleinement réalisé pour nous-mêmes. Ils ne l'ont pas vu. Alors transparaît toute l'amertume du doute. Parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne peuvent pas croire. Et ça, c'est faux comme raisonnement. C'est humain, c'est naturel, mais c'est faux. Parce qu'il y a chez l'homme, chez tous les hommes, cette méprise. Et qui nous rappelle que la vraie foi, c'est croire ce que l'on ne voit pas, et non croire que ce que l'on voit. Vous savez, Thomas... Oui, Thomas, vous savez comment il s'est caractérisé. Eh bien, Thomas va entendre cette parole de Jésus et ça sera pour lui comme tous les Thomas du monde entier, tous ceux qui viendront après lui et encore certainement peut-être parmi les hommes d'aujourd'hui. Et Jésus lui dira, mais parce que tu m'as vu, tu as cru, et heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. C'est ça la base, c'est ça le fondement, tout simplement. Refuser de croire à une vérité sous prétexte que l'on ne voit pas les objets, les faits, c'est de l'incrédulité. je refuse de croire parce que je ne vois pas. Eh bien, on est dans une impasse. Non, on est dans une impasse, c'est de l'incrédulité. La foi se révèle dans de petites choses, et n'attendons pas d'en avoir des grandes pour croire. Ça commence souvent dans les petites. D'ailleurs, le royaume de Dieu est fondé sur des petites choses. Le grain de sénevé. Et puis, tout ce qui nous est raconté dans les paraboles de Jésus, ça commence souvent petit. Parce que si nous sommes capables de croire dans les petites, nous allons croire dans les grandes. Forcément, ça va augmenter. Ça va finalement se développer. Alors, qui peut croire moins, peut croire plus. Ça, c'est sûr. Et l'école de la foi, dans le témoignage que Dieu nous a donné, croit au témoignage des autres aussi. Il y avait le témoignage de ces femmes. Il y avait le témoignage de ceux qui se sont précipités pour attester ce que les femmes avaient dit. Croire dans le témoignage des autres. Comment nous sommes venus à la foi? C'est parce que nous avons rencontré un jour ou un autre des amis qui nous ont dit « Ben moi, je crois en Jésus. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Il m'a guéri, il m'a transformé, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a donné ceci et cela. Il a fait pour moi une œuvre de grâce, de miséricorde. » Eh oui. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de témoins oculaires du temps de Jésus. Mais ce sont des témoins d'expérience. Ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, qui peut-être nous ont offert une Bible, qui nous ont raconté leur histoire, eh bien c'est comme ça que se véhicule l'Évangile, se poursuit l'Évangile et que la foi, eh bien, se perpétue. Témoin d'expérience. Alors le problème et son explication est le suivant. Au verset 25, il nous est dit, alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » On revient encore à la parole, comprenez ? Oui, on revient toujours à la parole. Une foi qui se prétend être la foi et qui ne se fonde pas sur la parole, ce n'est pas la foi. C'est une croyance, mais ce n'est pas la foi. Jésus va leur dire en quelque sorte, mais n'avez-vous pas réfléchi? N'avez-vous pas pensé un petit peu plus loin? Parce que vous êtes sans intelligence dans le domaine de la foi et du cœur. Ce n'est pas que c'était des gens qui étaient limités dans leur compréhension, sur le plan humain, sur le plan naturel. Mais Jésus leur parle de cette intelligence qui est tout autre, une intelligence qui vient de Dieu, une intelligence qui vient de l'Esprit. Quelque chose qui vient d'ailleurs et qui n'est pas enseigné dans les écoles, qui n'est pas enseigné tout simplement par l'expérience humaine, mais qui vient d'ailleurs, c'est une révélation en quelque sorte. Et nous sommes tous appelés à demander à Dieu qu'il nous donne de l'intelligence spirituelle. Et il n'en manquait, il n'en avait pas, sans intelligence dans le domaine donc de la compréhension de l'Écriture. Manque de pénétration pour saisir les promesses faites par les prophètes, qui étaient pourtant probantes. Quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont évidentes, mais elles ne peuvent devenir compréhensibles que dans la mesure où nous demandons et que Dieu nous éclaire. Je pense toujours, et je cite comme ça de mémoire, cette femme qui s'appelait Lydie, et il nous est dit que Paul prêchait l'Évangile, là où elle se trouvait, et à un moment donné, il nous est dit que Dieu lui ouvrit l'esprit, lui a ouvert l'intelligence pour qu'elle comprenne ce que Paul disait et enseignait. Et cette femme s'est convertie à ce moment-là. Oui. Ce que nous avons besoin de comprendre et de prier également, c'est que les gens qui écoutent votre témoignage, qui écoutent notre témoignage, qui écoutent le témoignage de l'Évangile, eh bien nous avons besoin de demander qu'ils comprennent par cette intelligence d'en haut. Parce que s'il n'y a pas ça, les gens peuvent venir 10 fois... 100 fois à l'écoute de l'Évangile, ils peuvent lire la Bible des milliers de fois dans leur vie, ça ne servira à rien. Il y a quelque chose qui vient d'en haut et c'est Dieu qui le donne. Et il est capable de le donner à tous ceux qui... Il veut le donner à tous ceux qui s'approchent de lui. L'homme a une faculté de compréhension pour tout ce qui est de la réflexion et fait appel au raisonnement. Ça, de ce côté-là, nous sommes très forts. Il peut croire avec sa tête beaucoup de choses. Mais quant à son cœur, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi, eh bien, Jésus leur dira, mais homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Quelle atrophie dans notre cœur. Ouais. Et pourtant, l'Évangile, c'est quelque chose qui est très simple. Puisque Jésus lui a dit, eh bien, même les enfants peuvent le saisir. Hein. Et souvent, il a pris l'exemple des petits-enfants qui, qui peuvent accéder peut-être plus facilement que nous, les adultes, à ces grandes vérités de l'Évangile. Alors, si on ne croit pas véritablement eh bien, les choses élémentaires, comment allons-nous croire à la résurrection? Parce que là, ça dépasse la compréhension, naturellement. Toutefois, le reproche de Jésus, quand il dira cette expression « cœur lent à croire », est significatif. Pourquoi? Parce que le cœur est le siège des affections et de la volonté, oui, du sentiment, et est toujours réticent à se confier, à s'abandonner, à faire le don de soi. On est prêt, et beaucoup d'hommes sont prêts à donner beaucoup de choses à Dieu, sauf, finalement, l'élément stratégique dans sa vie, c'est-à-dire son cœur. Oui. Ça nous rappelle une vieille citation de la Bible, dans le livre des Proverbes, où Dieu dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur ». Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas ceci ou cela. Ça, c'est sûr que si nous donnons le cœur, le reste va suivre. Mais le principal, c'est notre cœur. Faire le don de soi. Oui. Pourtant, la foi du cœur est essentielle pour être sauvé. C'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, quand il dit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous avez remarqué ces coordonnées qu'il y a, cette relation qu'il y a, si tu crois de tout ton cœur, croire quoi? Que Jésus est venu sur la terre? Que Jésus a fait ceci et cela? Non, que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si nous croyons ça, cette simple phrase, qu'est-ce qu'il nous est dit? Tu seras sauvé. Ce soir, nous qui écoutons cette parole, qui saisissons cette parole, pour la plupart nous savons ce qu'il en est, eh bien, seulement sur le fait de cette déclaration, si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien je suis sauvé. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine, comme l'on dit, d'aller chercher midi à 14h. C'est simple. Je suis sauvé parce que je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose. Et pour saisir pleinement le miracle divin, et le voir se réaliser, il faut un cœur ouvert, un cœur réceptif, confiant et un cœur sans préjugés. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans une certaine circonstance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans un autre texte, je crois que c'est Jésus qui dit ça aux pharisiens, qui sont rébarbatifs, qui sont hostiles à Jésus. Il nous est dit cette conclusion, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. C'est pas tant aux pharisiens, mais c'était aussi les disciples. C'était pour les disciples parce qu'ils se posaient la question, parce que leur cœur était endurci. S'il y a une chose qui doit disparaître, c'est la dureté de notre cœur. Et de dire, eh bien Seigneur, viens véritablement enlever ce cœur de pierre et en mettre un cœur de chair. Enlève cette résistance qu'il y a en moi et met ton esprit en moi. Et commençons par Moïse, en continuant dans notre méditation, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils étaient toujours en marche, hein, et ils n'avaient toujours pas reconnu que c'était Jésus qui était à côté. Hein. Ils le laissaient parler, ils l'écoutaient, mais pour l'instant leurs yeux étaient encore fermés. Et Jésus a dû leur parler sur beaucoup de choses qu'ils connaissaient déjà, mais qui étaient en train de préparer un réveil, qui était en train de préparer leur renaissance, leur résurrection à eux aussi. Ils n'étaient pas morts, mais spirituellement, ils étaient comme s'ils étaient morts. Hein. Il a dû leur parler de ses souffrances, de sa mort, la nécessité de la crucifixion, de sa résurrection, de sa gloire. Ça devait être des détails très impressionnants pour ceux qui étaient en train de l'écouter. Et à mesure que les disciples vont acquérir ou acquièrent l'intelligence des Écritures, ils sentent s'évanouir leurs doutes, ce qui est tout à fait normal, lesquels font place à la confiance, à la foi. Vous savez ce que nous avons besoin, ce que nous ne cesserons jamais de dire, plus nous nous imprégnons de la présence de Dieu dans la prière, plus nous cheminons dans la connaissance et que nous acquérons la connaissance de sa parole, de ses promesses, moi je vais vous dire, il y a un phénomène qui va se passer, il est très simple. C'est que les doutes, l'incrédulité va disparaître et la foi va grandir. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ça ne peut pas cohabiter. Il n'y a pas de cohabitation, de coexistence ensemble entre l'incrédulité et la foi. Et pour fortifier notre foi, Eh bien, il faut écouter Jésus. Il faut lire sa parole. Il faut s'imprégner de sa parole. Et plus ils vont avancer, puisque c'est toujours en chemin, eh bien, ils vont s'apercevoir à ce moment-là que leurs doutes sont en train de disparaître. Et jusqu'au verset 32, il nous est dit, ils se dirent l'un à l'autre. Ils ne vont pas le dire à celui qui parle, ils ne vont pas le dire à Jésus parce qu'ils n'ont toujours pas reconnu. Mais à l'un et à l'autre, ils vont échanger quelque chose. Ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Comme les hommes et les femmes qui écoutent l'Évangile, qui lisent la Bible, quand on est droit de cœur, quand on aime la vérité, quand on aspire véritablement à rencontrer le Seigneur, à vivre quelque chose avec lui, eh bien sa parole, elle nous excite. Sa parole, elle nous anime, elle nous réanime, elle insuffle quelque chose, une nouvelle vie à l'intérieur de nous-mêmes. Et elle nous amène à trépigner, elle nous amène à être dans cette espérance et dans cette attente. Et c'est ce qu'il se disait, lui, mais pendant qu'il parlait, mais notre cœur ne brûlait-il pas? Oui, parce que Jésus avait allumé un feu. Et nous avons besoin que ce feu soit allumé en permanence. Nous voulons grandir spirituellement, nous voulons aller plus loin, nous voulons faire des expériences. Eh bien, il faut que ce feu-là, le feu de l'esprit, le feu de la parole, brûle à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, c'est quelque chose de formidable. Et moi, je dis que c'est ce que Jésus fait encore. Là où il y a des cœurs qui ont faim et soif, là où il y a des gens qui ont faim et soif de vérité, de justice, d'une autre vie, d'une autre dimension de leur existence, alors leur cœur brûle, ouvrir l'intelligence de la parole, créer la foi dans les cœurs et ensuite se révéler ouvertement et puissamment, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Puisque le verset 28 et 29, ils sont arrivés donc tous les trois au village d'Emmaüs et les disciples vont s'arrêter alors que Jésus semble vouloir aller plus loin pour suivre sa route. Mais à ce moment-là, ils l'ont certainement attrapé, je m'imagine, un petit peu. Ils l'ont pressé, ils lui ont dit, mais reste avec nous. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Jésus a semblé finalement continuer la route. Eh bien, vous savez, si vous marchez avec Jésus, si Jésus marche avec vous, que vous ne l'avez pas encore reconnu, eh bien, à un moment donné, peut-être que vous allez vouloir vous arrêter, et lui, il va continuer. Mais si vous ne lui dites pas de rester avec vous, il continuera. C'est pour ça qu'il faut lui demander. C'est une belle pensée, hein, c'est une belle parole. Seigneur, reste avec moi, Seigneur. Il y a tant de bien dans ta présence. Ta parole me fait du bien. Elle me comble de bonheur. Elle me donne la paix. Elle procure une joie que je n'ai jamais connue. Alors reste avec nous, Seigneur, parce que si je te perds, je perds tout. Reste avec nous. Jésus n'est pas resté cloué, mort à la croix. Encore une fois, il faut le dire, il est ressuscité. Il n'a pas fait que venir sur cette terre et poursuivre la route dans la mort. Il est vivant, il est ressuscité, il a traversé le voile. Et cette vérité de Jésus avec nous s'offre à chacun dans la mesure où nous voulons bien le croire. Lorsque nous avons commencé cette réunion, nous avons prié et nous avons demandé au Seigneur qu'il soit là. Nous avons demandé que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse tous ensemble dans la communion fraternelle. Que sa parole, eh bien, soit la lumière, qu'elle nous éclaire, qu'elle soit notre soleil, qu'elle soit notre espérance. Reste avec nous, Seigneur, parce qu'on sait que tu n'es pas mort, tu es ressuscité, tu es là. Et cette vérité de Jésus, eh bien, ça s'offre pour chacun d'entre nous si nous voulons ouvrir notre cœur. Et il appartient de lui dire tous les jours, à chaque instant, dans les bons comme dans les mauvais moments, « Mais Seigneur, reste avec moi. Reste avec nous car le soir approche et le jour est à son déclin. » Ils avaient marché, puisque je vous ai dit qu'entre Jérusalem et Emmaüs, il y avait à peu près 15 kilomètres. Alors, ils devaient faire ça à peu près. Une marche d'un homme, c'est 5 kilomètres à l'heure. Ils ont marché pendant 3 heures, peut-être. Mais c'était au crépuscule, ils arrivaient donc à Emmaüs. Et cela nous fait dire que notre foi doit être solidement ancrée sur les faits que Jésus est vivant. Pour oser espérer dans un monde où le jour est à son déclin. Ouais. Oser espérer. Avoir l'audace de croire, eh bien, que ce Dieu est un Dieu vivant. Un Dieu qui est notre lumière dans un monde de ténèbres. Où là, eh bien, finalement, les lumières s'éteignent autour de nous. Où les principes disparaissent. où véritablement, eh bien, les hommes, où le mal s'apesantit sur notre monde, alors que nos sociétés sont en déclin, et de lui dire, eh bien, Seigneur, nous avons besoin de toi, parce que tu nous as dit que tu étais la lumière, et parce que tu es la lumière, et que celui qui te suivrait ne marcherait pas dans les ténèbres, alors c'est dans ces ténèbres-là que nous avons besoin de ta lumière. Alors tu restes avec nous. Et ça, faut oser le croire. Alors, quel espoir ? La mort ? Non. La résurrection. Et quelle grande et éternelle espérance, puisque Jésus nous dit qu'il est malgré tout avec nous, mais que néanmoins il revient bientôt. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse. Et là, tout œil le verra. Peut-être pour certains, le soir approche, parce que la vie décline. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on peut dire que la vie décline. Le soir approche. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut saisir la réalité d'un Christ vivant qui nous sauve. C'est peut-être le soir approche parce que, avec les ombres de la solitude, de l'isolement, les angoisses de la mort, pour que nous ne puissions pas dire, eh bien, ça va arriver bientôt et tout sera fini. Parce que justement, c'est ça le grand renversement de la puissance de la foi. C'est que si les hommes disent dans leur incrédulité, tout est fini, Dieu nous dit, non, rien n'est fini, tout commence. Tout commence, tout recommence. C'est pour ça que ces hommes disaient, mais nous espérions, et après il n'y aurait plus rien. Nous espérions de la vie, et voilà la mort. Alors que c'est tout le contraire qui se passe. Est-ce qu'il y aura encore une raison d'espérer encore ? Est-ce qu'il y aura encore une raison, finalement, de nous tourner vers le Seigneur ? Par-delà la vie, par-delà la mort, encore une fois de plus, nous sommes interpellés à saisir au fond de notre cœur que Jésus est ressuscité. Vous savez, je voudrais vous citer ce beau texte de l'Écriture, qui était un homme qui vivait il y a très très longtemps dans l'histoire biblique. Il s'appelle Job. Et vous savez ce qu'il nous laisse ? Alors qu'il n'était pas question de résurrection à l'époque. Mais au fond de son cœur, il sentait que l'Esprit de Dieu était déjà là, et il écrira ces paroles, parce que c'était sa dernière espérance. Et il dira ceci, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. » C'est vrai, parce que ça a été écrit dans un livre maintenant, hein. Mais ça, il ne le savait pas, des siècles et des siècles après. « Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Et il proclamera à Job, il dira, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre, le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand je n'aurai plus de chair et à ce moment-là, je verrai Dieu. » Ouais. Quelle espérance! Quelle promesse extraordinaire que cet homme des temps très anciens nous livre! Vous savez, il y a une chose que nous pouvons dire pour chacun d'entre nous, c'est que nous allons ressusciter. Oui, nous allons ressusciter. Et vous savez pourquoi nous allons ressusciter ? Parce que Christ est ressuscité et que nous croyons dans sa résurrection. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose. Je terminerai par cette pensée, par le témoignage des disciples. Quand ces disciples vont voir... Au moment où Jésus va rompre le pain dans cette maison, puisqu'ils lui ont dit « Reste avec nous », Jésus restait. Et quand il a commencé à rompre le pain, alors à ce moment-là, il nous a dit que leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu que c'était Jésus. Seulement à ce moment-là. Seulement à ce moment-là. Et ils sont partis très vite. Ils ont retourné à Jérusalem. Quand ils ont fait le chemin de Jérusalem à Emmaüs, ils étaient accablés, fatigués, désespérés, déprimés, en pleine angoisse. À partir du moment où les yeux vont s'ouvrir, ils vont être pleins de vie, pleins d'enthousiasme, pleins d'espérance. Et quand ils vont arriver à Jérusalem, là, auprès de leurs amis, les chrétiens, les disciples, ils vont dire, la première chose qu'ils vont dire, ils vont dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors comment parvenir à une telle conviction ? Est-ce que c'est par la vue ? Parce qu'ils avaient vu le Seigneur, c'est vrai. Ils l'avaient vu, parce qu'il s'était montré à lui, là, à ce moment-là. Non, c'était par la foi. Et s'il y a une chose qui nous permet d'aller plus loin, c'est tout simplement eh bien, notre foi dans ce qu'il nous a dit dans les promesses. Et je crois que cet entretien de ces deux disciples avec Jésus sur le long du chemin eh bien, leur a permis de rentrer dans une nouvelle expérience. Oui, et la vie spirituelle, c'est ça. Et la vie chrétienne, la vie dans la foi, c'est d'aller d'expérience en expérience, de le connaître toujours de plus en plus, de le découvrir toujours de plus en plus dans sa grâce, dans sa puissance et dans sa gloire. Jusqu'au jour où là, nous ne le verrons plus par la vue, puisque nos yeux se fermeront. Nous ne le verrons plus par la foi, pardon, excusez-moi, je rectifie, mais nous le verrons face à face. Et ça sera véritablement l'aboutissement de tout ce cheminement. Nous le verrons face à face. Alors, la connaissance de la parole nous amène à l'intelligence dans notre cœur. Et cette intelligence dans notre cœur nous amène à cette foi qui va nous permettre tout simplement de croire l'impossible. Ouais, de croire l'impossible. Nous avons commencé notre méditation en disant que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Et au verset 31, il nous est dit que lorsque Jésus leur a fait face au moment du repas, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors je pense que nous allons terminer sur cette dernière parole. Reconnaissons Jésus. Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il ouvre les yeux de notre cœur, que nous puissions, eh bien là, véritablement nous attacher de lui, nous approcher à lui et lui dire encore une fois de plus, si tant bien même nous avions l'impression qu'il continue son chemin, de lui dire, eh bien Seigneur, reste avec nous, reste avec moi, parce que le jour décline, la nuit vient. Alors Seigneur, ne me laisse pas seul dans la nuit, ne me laisse pas errer dans la nuit dans les ténèbres de ce monde, mais donne-moi de marcher à ta lumière et de vivre par la grâce dans la foi dont tu remplis mon cœur. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité, pour ta parole. Oui, Seigneur, l'exemple de ces disciples d'Emmaüs qui sont passés du doute à la foi, eh bien, c'est l'expérience de tout homme. Et nous voulons, Seigneur, te demander que tu nous bénisses ce soir, que tu nous donnes, Seigneur, de grandir, que tu nous donnes de nous développer, Seigneur, que tu nous donnes d'aller plus loin. Mais nous voulons te dire, Seigneur, dans notre entretien que nous avons partagé ensemble, nous voulons tous te dire, reste avec nous, Seigneur. Oui, reste avec nous parce que tu es notre vie, tu es notre salut, tu es notre pardon, tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Parce que nous savons que si nous marchons, eh bien seuls, alors à ce moment-là, la tristesse, la peur, les angoisses, le désarroi, Seigneur, eh bien nous saisit comme ces deux disciples sur ce chemin. Mais lorsque tu es avec nous, Seigneur, alors à ce moment-là, tu nous enseignes ta parole. Tu nous enseignes les vérités de l'Écriture et les craintes, la peur, les angoisses, l'inquiétude disparaît pour faire place, Seigneur, eh bien à la foi qui nous enthousiasme, qui nous réjouit, qui nous transporte, Seigneur, en effet, Père éternel, dans les dimensions spirituelles. Et nous te bénissons. Merci, Seigneur, parce que nous ne voulons pas rester tout simplement au fait que Jésus est mort à la croix, qu'il a été mis dans le tombeau. Mais nous croyons, Seigneur, qu'il y a plus que cela. Quelque chose qui fait palpiter notre cœur, c'est qu'en effet, tu es ressuscité. Et si aujourd'hui nous marchons, Seigneur, par la foi, demain, Seigneur, nous marcherons par la vue, parce que nous te verrons face à face. Comme tu t'es fait connaître à ces disciples d'Emmaüs, ils t'ont reconnu et ils ont pu confesser que le Seigneur est réellement ressuscité. Tu nous bénis les uns et les autres. Tu nous fais du bien et fais grandir notre foi. Merci Seigneur. Amen. Amen.